Le DAF est clair. Le DAF, c'est clair avec Torah Box et Rav Ishay Asayag.
C'était Shkalim, page 16, DAF Tetzain.
Bonjour à tous, c'est DAF est clair, Shkalim Tetzain. On dit la Gemara que, à part le fait que le Aaron avait été enterré, on a enterré aussi le bocal où il y avait de la manne, l'assiette dans laquelle se trouvait le Shemen Amishra, le bâton de Aaron et ce qui avait poussé sur ce bâton pour prouver qu'il avait toute sa place face à Korach. Et le argaz que les Pélishtim ont ramené en tant que kapara, puisqu'ils avaient volé le Aaron. Qui est-ce qui a enterré le Aaron? Mouzlagma, c'est Yoshiaou, puisqu'il savait qu'on allait en galoute. Donc il a préféré anticiper et ne pas prendre le risque que le Aaron soit pris en galoute et qu'il ne revienne pas. C'est pour ça qu'il a enterré. Il a dit aux Lévites, maintenant vous allez continuer à faire votre avoda sans qu'il y ait le Aaron. Nous dit l'Agmara au sujet de Shemen Amishra, l'huile qui était utilisée pour l'onction, il y avait 1500 manim. L'huile qui était utilisée, 12 lugim, et on faisait cuire dans cette huile-là. On faisait cuire ces fleurs, ces plantes qui avaient une bonne odeur, d'après Rabbi Meir, alors que d'après Rabbi Yehuda, on avait d'abord besoin de les faire cuire dans de l'eau, et seulement après, on mettait l'huile dessus pour que l'huile soit imbibée de cette odeur, et après, on l'utilisait pour la Meshira. Nous dit la Gemara que cette huile que Moshe a fait dans le désert, c'était un miracle du début à la fin, puisque la quantité était minimale, 12 lougs, et même pour pouvoir les étaler sur ces bessamim-là, qui avait été lumière, ça n'aurait pas suffi. À plus forte raison, pour quand c'était réchauffé, donc il y avait le feu qui devait faire évaporer une partie de l'huile, le bois des bessamim qui allait avaler un peu une partie de cette huile, la marmite qui allait avaler une partie de cette huile, donc la quantité était encore beaucoup plus petite que ce qu'on avait au départ. Et après tout, on a pu l'utiliser pour faire l'onction du Mishkan, de la Menorah, du Shulchan, etc., des Kohanim Gdolim, de Aaron à Kohen et de ses enfants pendant les 7 jours avant de rentrer au Mishkan. Et tout au long de l'histoire, on l'a utilisé, donc une toute petite quantité a suffi tout au long de notre histoire. Un roi qui devient roi pour la première fois, donc il n'hérite pas de son père, on a besoin de lui faire une onction, mais un fils de roi, lui, n'a pas besoin de faire une onction de l'eau. Est-ce qu'on sait qu'un roi, on doit lui faire l'onction et pas à ses enfants? Parce qu'au sujet de David, il y a marqué que c'est à lui qu'on doit faire l'onction, seulement à lui et pas à ses enfants. Mais un Kohen Gadol, même s'il est fils de Kohen Gadol, on doit lui faire l'onction, même si c'est 10 générations. La Gemara nous dit que cette huile, Bezrat Hashem, elle est Kaemet le Olam Haba. L'onction d'un roi ne peut se faire que à côté d'un Mahayan. C'est un siman bracha pour lui, pour qu'il ait la longévité sur son trône. Un fils de roi n'a pas à recevoir l'onction, sauf s'il y a marloquette entre les frères ou d'autres qui, eux, voudraient prendre leur place, comme on a vu au sujet de Adoniyahu, au sujet de Yoash, parce qu'il avait un problème avec Ataliahu, au sujet de Yoachas, parce qu'il avait un problème avec Yoachim, et Yehu face à Yoram. La Gemara demande, mais comment est-ce qu'on peut faire l'onction? Pourtant, il y a marqué que c'est seulement... elle demande au sujet de Yehu, comment est-ce qu'on peut faire l'onction à Ré? Il ne faisait pas partie de Malché Yehuda, il faisait partie de Malché Israël. L'Agma pose par une autre question. De toutes les façons, c'est sûr qu'il n'a pas reçu l'onction habituelle, puisque c'était les enfants de Yoshiaou. Et donc, forcément, Yoshiaou avait déjà enterré cette huile, comme on l'a dit il y a quelques instants. Donc, de quelle huile on parle? Forcément, c'était pas de l'huile normale, c'était autre chose. L'Agma, autre chose au sujet de l'onction des rois. On utilisait un kéren pour le faire, et non pas un ustensile en argile. Shaoul et Yehu, c'était dans un ustensile en argile. Ils sont pas restés longtemps. Alors que les autres, c'était David de Shomo, c'était dans un kéren et ils sont restés jusqu'au bout. Un Kohen ne peut pas être roi, comme il est marqué dans le pasuk Lo Yaseru Shevet Mi Yehuda. Donc ça doit rester du Shevet Yehuda. Deuxième pasuk, il est marqué Eman Yarichem Echal Molachto, Yemim Al Molachto. Et après, il y a marqué Loi et la Kohanim. Donc on comprend, les Kohanim ne peuvent pas être rois. Rabbi Yochanan nous dit que quand on a dit que Yehoachaz était roi, ce Yehoachaz, en vérité, il s'appelle Yochanan. La Gemara nous dit, mais c'est pas possible. Non, c'est qu'il y avait un problème entre Yehoachaz et son grand frère Yehoiakim. Dans le passage, il y a marqué que Yochanan, c'était le Bechor. Donc, il n'avait pas de grand frère. La Gemara, quand on te dit que c'était le Bechor, le Malchut, c'était le premier être roi. Rabbi Yochanan nous dit, à part ça, dans la suite du passage, il y a marqué Shalom et Tzidkiyahu, en vérité, c'est la même personne. Ah, pourtant, il y a marqué que le troisième, c'était Tzidkiyahu, le quatrième, c'était Shalom. Nous dit la Gemara, c'est vrai, il est né le troisième. Il était le quatrième, à parmi les Tzidkiyahu de Yoshiaou, de devenir roi. La Gemara nous dit, pourquoi est-ce qu'on l'appelait Tzidkiyahu? Parce qu'il a accepté la Midat Hadin. Pourquoi est-ce qu'on l'appelait Shalom? Parce que c'était le dernier roi de Beth David. Rashi Lakish nous dit, en vérité, c'est ni Shalom ni Tzidkiyahu son prénom. Son prénom, c'était Matania. Pourquoi est-ce qu'on l'appelait comme ça par rapport à sa conduite, comme on l'a dit auparavant? C'est Tzidouk Hadin et Shlemut Amalchut et Ashlamat Amalchut. Rabbi Yochanan vient et nous dit que la Hama dans laquelle on doit mesurer le Aaron, c'est une Hama qui fait Sidfahim. On a une marloquette à ce sujet entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Meir, c'est tout le temps Sidfahim. D'après Rabbi Yehuda, pour le Beth Amikdash, c'est Sidfahim. Mais pour les ustensiles, c'est 5 et le Aaron fait partie des ustensiles. Et donc, d'après Rabbi Meir, si on fait avec Sidfahim 2,5, c'est la taille du Aaron. Donc, on a x 6, ça fait 15. Et on sait qu'il y avait les 4 louchotes qui étaient dedans, 2 des louchotes et 2 qui étaient cassés. La taille des louchotes, c'est 6 sur 3. Donc, si on va mettre la largeur des louchot sur la longueur du haron, on va avoir 4 fois 3, 12, qui sont parallèles à 15, donc il me reste 3 tefachim. Donc de chaque côté, on va enlever l'épaisseur du mur, c'est un demi-tefach, il me reste 2 tefachim pour le Sefer Torah que Moshe Rabbeinu avait écrit qui était déposé. La largeur du haron, encore une fois, une amma de 6, pour, il y a marqué dans la Torah, amma vachetzi, 1,5 fois 6 est égal à 9, puisqu'on sait qu'elle faisait 3 de largeur. Donc fois on a donc on a dit qu'elle faisait 3 de largeur sur le Rochav chez Aaron, il faisait 9, donc il restait là-bas 3 de Fahim, donc pardon, pas 3 de largeur, 6 de longueur, et donc il me reste, quand j'enlève des 3, il me reste 3 de Fahim, un demi tefar de chaque côté pour l'épaisseur du mur, donc il me reste encore 2 tefar, donc en vérité j'avais une place de 2 de Fahim sur 2 de Fahim pour pouvoir prendre le Sefer Torah facilement. Je lui dis non, moi je suis pas d'accord. Tout le calcul il est bon, mais il faut changer une seule donnée. La Hama elle faisait 5 tfachim, comme Rabbi Houda nous dit que la Hama faisait 5 tfachim. Et donc, si le Haron il fait 2,5 de longueur, 5 fois 5, ça fait 12,5. Dans la longueur, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre la largeur des louchot. Combien font les louchot? Elles font 4. 4 fois 3, 12. J'ai 12,5. Il me reste de chaque côté un quart de tefar pour l'épaisseur des murs. La largeur du Haron, combien elle faisait? 1,5. Donc ça fait 7,5. Puisque ça fait 7,5. Et que la longueur des louchot, ça fait 6, donc il me reste 1,5. De chaque côté, un demi tefar. De chaque côté, un quart de tefar. Donc il me reste un demi tefar de chaque côté pour pouvoir sortir les louchot tranquillement. La Gemara demande comment est-ce que ce haron était fait. La Gemara nous explique. Il y avait en vérité, il y a une marloquette. Premier avis, une boîte en or, une boîte en bois, une boîte en or. Deuxième avis, une boîte en bois qui était plaquée or. Explique la Gemara, d'après celui qui dit qu'il y avait trois boîtes, parce qu'il y a marqué Tetzapenu, il y a marqué deux fois le Tzipouy, donc il y a une fois les deux boîtes en or, et une seconde fois pour recouvrir l'endroit en bois qui était découvert. D'après celui qui dit que c'était une seule boîte qui était plaquée or, c'est bien pour nous dire qu'entre chaque partie des lattes du Haron, on devait mettre de l'or. Comment est-ce que les louchot étaient écrites, c'est-à-dire combien de dibrot il y avait sur chacune? Premier avis, 5 de chaque côté, puisque les 10 louchot, les 10 dibrot étaient à partager entre les deux louchot. Deuxième avis, 10 de chaque côté, puisqu'il y avait marqué qu'il faut les écrire sur les deux, donc les écrire les 10 au total. Troisième avis, Rabbi Shimon ben Yochai, il nous dit 20 de chaque côté, donc c'est-à-dire 10 et 10, donc au total c'était marqué 4 fois. Et d'après le dernier avis, Rabbi Shimon nous dit qu'en vérité c'était marqué 40 fois, c'était marqué sur les 4 côtés de l'or, il y avait marqué les 10 droites. Hanania, le fils de Rabbi Yoshua, le neveu de Rabbi Yoshua, disait comme ça que tout ce qui est dans la Torah, on l'a en fait dans les Aseret HaDibrot, c'est ce qui est marqué dans le Passouk, mais Moulaïm Batarchish. Rech Lakish disait qu'il comprend la parallèle avec Tarchish. Tarchish c'est la mer Méditerranée, de la même manière que dans la mer, il y a des grandes vagues et des petites vagues. De la même manière, dans les Aseret HaDibrot, c'est les grandes vagues, il y a les petites vagues, c'est tous les détails qui découlent de la Torah. Rabbi Tanhuma nous dit que il ramène une preuve comme Rabbi Yehuda, pas comme Rabbi Meir. Dans le Passouk, c'est marqué La Koach et Sefer Torah Zeh, Vesamtem Oto Mitzad Aaron Brit Hashem. Il faut mettre le Sefer Torah à côté. Donc on comprend qu'il faut le mettre à côté. Donc c'est comme c'est marqué, il y avait encore une petite boîte, une petite étagère dans laquelle était posé le Sefer Torah. Et c'était à l'extérieur du Aaron. Donc c'est contraire à la vue de Rabbi Meir. Rabbi Meir lui pense que, puisqu'il est marqué dans le Passouk, tu vas mettre les Luchot, tu vas mettre la Caporette, pardon, tu vas couvrir le Aaron. Et après, tu vas mettre les Edout. Edout, si on parle de. Des louchot, alors il faut les mettre avant de mettre la caporette, avant de mettre le couvercle. Forcément, quand on parle de Edout, on parle de ultérieurement, on va mettre autre chose, on parle du Sefer Torah qui allait être déposé plus tard. Rabbi Yehuda lui dit non, on parle des louchot, ah c'est marqué dans le désordre. En mukdam ou meuchar batorah, il n'y a pas forcément d'ordre dans la Torah, c'est pour ça que on peut lire le passouk différemment. Tu vas mettre les louchot et après tu vas mettre la caporette. Nous dit Rabbi Pinchas selon Rech Lakish, la Torah que Moshe a reçue, c'est une Torah noire qui était écrite sur un feu noir qui est écrit sur un feu qui est blanc, et c'est un feu qui est mélangé dans un autre feu, qui vient du feu et qui est donné par du feu. Et c'est pour ça que c'est marqué Mimino Esh Datlam. On va résumer rapidement ce qu'on a vu. Donc la première chose qu'on a vu, c'était les choses qui étaient enterrées avec le Haron, pas seulement le Haron. On a parlé de l'huile de Shemen HaMishra, les miracles qu'il y avait dans Shemen HaMishra, la petite quantité, la cuisson de Shemen HaMishra, marloket, est-ce qu'il y avait cuisson dans l'eau avant ou cuisson dans l'huile? Qui est-ce qui recevait ce Shemen HaMishra? Un Kohen Gadol, n'importe lequel, même si son père était Kohen Gadol, un roi qui n'a pas reçu, qui n'a pas hérité de la royauté, un roi fils de roi allait recevoir une autre onction dans le cas où il y a une marloket, seulement dans le cas où il y a une marloket, on va lui donner. Un Kohen ne peut pas devenir roi, puisqu'on a des psukim qui nous disent clairement. Rabbi Yochanan nous dit que Yoachaz s'appelait Yohanan. Shalom, Tzidkiyahu et Matania, c'est la même personne. Machloket, est-ce que on mesure dans une amas de 5 fachim ou de 6 fachim et donc on aura une autre machloket, est-ce qu'il y avait un Sefer Torah à l'intérieur ou pas, est-ce qu'il y avait la place ou pas. 4 avis, combien de commandements étaient écrits dans les Aseret HaDibrot. Dans les Aseret HaDibrot, on a toute la Torah qui est écrite. Et l'image de la Torah avec le feu, feu mélangé avec du feu, le Daf Eklar Baruch Hashem, et à demain, Bezrat Hashem.